RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. Il est 20h03, l'Intégral Tour continue comme tous les soirs pendant ce Tour de France jusqu'à 21h. Et à 20h03 en général, on accueille nos deux adeptes du sprint. Enfin, je sais pas pourquoi je dis adeptes du sprint, parce qu'on est tous adeptes du sprint aujourd'hui. Lucho et Bourgui, messieurs, bonsoir.
Salut.
Je me permets de dire qu'on est tous des adeptes du sprint, parce qu'un doublé français sur un sprint massif, c'est quand même suffisamment rare pour être signalé. Ouais. Arnaud Démare s'est imposé aujourd'hui dans les rues de Pau. Il a devancé Christophe Laporte et le Norvégien Alexander Kristoff. Je vais commencer par mon petit quiz. Est-ce que vous savez à quand remontait le dernier doublé français? Est-ce que vous le saviez vraiment ou est-ce que vous avez regardé?
78.
Alors, je vais aller plus loin. Qui étaient les deux ce jour-là français à s'être disputé la victoire pour un sprint massif?
Castin, non? Il y avait Francis Castin, non?
Il n'y avait pas Francis Castin.
Non.
C'était à Saint-Amand-les-Eaux et c'était Jacques Esclasson qui s'était imposé devant Yvon Bertin. Voilà.
Bertin?
Voilà. Et Jean-François Pécheux avait fait sixième ce jour-là de cette étape au sprint. D'accord. On en apprend des choses, hein? On en apprend.
Ouais. Oui.
Allez, messieurs, on va. Oui.
C'est la minute culturelle.
Mais c'est la minute culturelle. Mais tu vois, j'adore. Moi, je trouve ça très important de faire de la pédagogie sur l'histoire du Tour de France parce que c'est passionnant. Elle est passionnante, tout simplement, cette histoire. Arnaud Démare rentre un petit peu plus dans l'histoire, justement, de ce tour en s'adjugeant une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. Il s'était imposé à Vittel l'an passé. C'est donc, cette fois-ci, Pau. Messieurs, il prouve quand même, Arnaud Démare, qu'il faut vraiment compter sur lui. Sa performance, les mauvaises langues pourront dire, bah ouais, mais il n'y a plus Gaviria, bah ouais, mais il n'y a plus Greppel, ben ouais, mais il n'y a plus.
Toujours tort.
Sauf que non seulement les absents ont toujours tort, mais lui a passé la montagne.
Oui. Ouais, mais c'est ça le tour.
Lui a passé la montagne.
Il faut que les sprinteurs passent la montagne.
Il reste Sagan, il reste Christophe, il y a quand même des belles pointures encore.
Il reste Degenkolb.
Eh oui. Degenkolb aussi, ouais.
C'est quand même une super victoire aujourd'hui pour Arnaud Démare aussi, avec toutes les critiques qu'il a subies. Justement, Greppel qui s'était fendu dans Twitch hier pour dire, oui, il a dû s'accrocher aux voitures pour monter si vite.
C'est nul.
Mais c'est nul. Bon, il s'en est excusé d'ailleurs.
Oui,
mais
c'est rien, le mal il est fait. C'est facile de cracher.
C'est dommage parce que Greppel.
Il a été très très touché d'ailleurs, Arnaud Démare.
Mais
très,
oui, tu craches à la gueule de quelqu'un. Après, tu t'en excuses.
C'est dommage de la part de Greipel, parce que c'est un coureur qui me paraît bien sous tous les angles, et là il m'a vraiment déçu de parler comme ça de...
Tu sais, Lucho, je pense qu'il était énormément déçu de sortir du tour.
Ben oui.
Donc ça lui fout les boules.
Tiens, c'était peut-être son année de trop aussi, hein, Greipel.
Messieurs, c'est vrai qu'en tout cas, a priori, ça va pas continuer pour lui du côté de la Lotto Soudal, hein, qui a recruté l'Australien Caleb Ewan. Et a priori, André Greipel, effectivement, l'Allemand ne restera pas à Lotto Soudal. Ça veut pas dire qu'il retrouvera pas une équipe. Hein. C'est quand même une belle valeur sûre, on va dire,
c'est une
André Greipel. Arnaud Démare qui réagit justement au tweet d'André Greipel et à ses excuses par la suite. Arnaud Démare, le sprinter.
Ouais, bah forcément ça m'a énormément touché, énormément blessé. C'est un manque de respect pour tout mon travail, tous mes proches, mes partenaires et le sponsor de l'équipe. Donc forcément ça m'a beaucoup touché. Voilà, la meilleure des réponses, ça serait de le remporter aujourd'hui. Maintenant, je digère. Malheureusement, ces excuses, ça me fait pas grand-chose, le mal est fait. Ça fait une ouverture, une belle porte sur le doute pour les gens. Maintenant, les gens vont penser ce qu'ils veulent. On a quand même de nombreux commissaires. Cette année, en plus, il y a la vidéo qui est omniprésente. Le Tour de France est très dur, c'est sûr. Il y a beaucoup de sprinteurs à la maison. Je lâche rien et moi, j'y crois.
Voilà, c'était Arnaud Démare. Donc, après ce tweet d'André Greipel qui disait la plus belle réaction, ça serait de l'emporter aujourd'hui. Ce qu'il a fait magnifiquement, Arnaud Démare, puisqu'il a réglé donc au sprint un petit peu tout le monde. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur
l'étape
du jour?
Non, mais il a raison, Arnaud, parce que le mal est fait, quoi.
Le mal est fait, mais
maintenant, la suspicion sur le fait que Arnaud soit encore sur le tour et le fait que Greipel dise ça, eh ben il y aura même si c'est un faible pourcentage, il y aura toujours des gens qui vont penser que peut-être que Arnaud s'est accroché à la bagnole.
Oui.
Et ça, c'est pas bien de la part d'un sprinter, d'un mec de la classe de Greipel, d'avoir parlé comme ça sans savoir. Franchement, c'est jeter
le discrédit sur quelqu'un sans preuve.
Ah ouais,
c'est facile de dire des choses
sur l'histoire du GPS. Dans tracé GPS qui en plus était pas du tout fiable hein, visiblement. Voilà sur quoi s'était appuyé André Greipel.
Ouais.
Bon, c'était un petit peu nul. Super grand bonhomme quand même Arnaud Démare.
Parenthèse.
Grand bonhomme hein, deux victoires d'étape sur le Tour de France, victoire à Milan-San Remo, on s'en souvient en 2016. Il rentre un petit peu plus dans cette catégorie. Alors on sait c'est pas il est pas encore tout en haut du panier, on va dire, il est battu à la cuisse, on l'a vu par à la pédale par les meilleurs, mais finalement cette deuxième victoire sur un Tour de France, elle veut dire quelque chose pour lui.
Ben déjà qu'il progresse, parce que les années passent et les années sont bénéfiques pour lui, puisque il grandit.
Il a que 27 ans, Arnaud.
Et oui, il est abandonné souvent dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Le deuxième massif lui était fatal souvent. Et puis là, on voit qu'il s'est accroché, il a travaillé, il l'a dit. Hein, il a travaillé énormément en montagne, ce qui lui a permis de passer, de rentrer dans les délais. Et franchement, moi, je donnais pas cher de lui pour aujourd'hui, parce que je me disais il a trop galéré dans les Pyrénées pour garder un peu d'influx pour des grands sprints rapides comme ça, et il nous a prouvé le contraire.
Et visiblement c'est plutôt Peter Sagan qui pour le coup
la chute l'a endommagé quand même,
puisqu'il ne termine que 8e du sprint.
C'est déjà pas mal.
Aujourd'hui c'est déjà pas mal, il consolide son maillot vert. Peter Sagan, il a plus rien à prouver. A priori, si tout va bien, il remportera son 6e maillot vert sur les Champs-Élysées. Ce sera dimanche. Nicolas a fait le 32-16. Salut Nicolas.
Bonjour Thierry. Salut. Comment allez-vous tous les deux?
Salut Nicolas.
Bonjour. Très ça bien. Ça va Nicolas.
Bon, quel plaisir de t'entendre, mon petit Lucho et Thierry. On s'est vu nous au coin d'un salon à Paris il y a quelques jours. Et ben moi j'ai vécu une belle étape aujourd'hui. Content que Arnaud Démare en tout cas gagne aujourd'hui. Et c'est vrai que comme vous, j'aime pas les polémiques, je comprends pas ce que c'est là Greipel. Mais en tout cas, qu'importe, belle victoire. Moi je vois demain gagner notre ami Romain Bardet. C'est un orgueilleux. Il a été touché, il est presque coulé au classement général maintenant, je ne vois pas revenir dans le top 4. Moi je pense que demain, il va tout tenter pour essayer de gagner l'étape. Donc je vois bien encore un Français gagner demain, et puis Alain Philippe nous a émerveillé, et je pense qu'aujourd'hui il a fait une étape assez tranquille, et que demain il va encore aller chercher les points en demi étape et qu'il va concrétiser son rêve d'aller chercher ce maillot à poids.
Alors Nicolas, on va rappeler de manière un petit peu plus précise le parcours de demain. Projetons-nous d'ores et déjà, mettons de côté cette victoire d'Arnaud Démare devant Christophe Laporte. Christophe Laporte d'ailleurs qui était extrêmement déçu hein, à l'issue de cette étape, mais bon, quand même une deuxième place sur le Tour de France, c'est quelque chose. Donc demain, Lourdes-Larens, 200 km 500, c'est la 19e étape messieurs, la dernière grande étape de montagne. Il y aura le fameux col d'Aspin, le fameux col du Tourmalet et le fameux col d'Aubisque, tout ça entrecoupé du col des Bordères et du col du Soulor. Ça va faire quand même un sacré programme. Alors ce que disait Nicolas là il y a un instant au 32-16, c'était qu'il voyait pourquoi pas Romain Bardet s'imposer, même s'il a 5-13 au général. Ça voudrait dire qu'il prendrait un coup Romain Bardet. Ça me
vu la situation dans laquelle il est,
ça me paraît compliqué quand même.
Il ne peut pas prendre un coup déjà. S'il passe à l'attaque, à l'offensive, c'est dans le dernier. Essayer de faire la descente derrière et puis
non, mais de toute façon, il peut pas partir dans un coup parce que tu auras toujours l'équipe Movistar qui sera derrière lui.
Même la Sky.
Voilà, quoi. Ouais, mais la Sky, bon, après, ils peuvent contrôler.
Oui, après,
il a un peu plus de 5 minutes, mais
ouais,
bon,
mais Lucho, s'il laisse sortir Bardet, ça va sortir de tous les côtés.
Ouais non, mais il ira pas de toute façon parce que ça va les gars qui sont loin en général, ils vont lui dire écoute, t'es gentil mais là tu nous hein laisse-nous partir mais reste avec eux quoi. Si vous voulez faire les kékés, vous le faites sur la fin mais voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que là Bardet il va pas sortir.
Non,
c'est pas possible.
Aspin Tourmalet messieurs, c'est un classique quand même, Lucho et Bourgui de ce Tour de France, on part, c'est traditionnel,
c'est
Daron,
loin, c'est loin.
Au tout début de la Vallée d'Or, Col d'Aspin, c'est loin peut-être, mais en tout cas c'est un classique.
Ouais.
C'est quelque chose qui risque de faire mal. Hein.
Ça va
c'est magnifique.
Faire mal.
Ben, moi, tu sais, Thierry, je verrais bien la Movistar parce que maintenant ils ont plus de pression. La pression, ils avaient pas gagné l'étape et tout, ils ont toujours eu la pression. Quintana, il est revenu à la 5e place au classement général. Il a plus la pression de la victoire d'étape, Valverde et tout. Maintenant, il peut se dire, après tout, de toute façon, 5e, personne va s'en rappeler. On peut lancer l'offensive dans le Tourmalet, par exemple, tu vois. Il peut se passer plein de choses avec la Movistar, parce que tu connais Valverde,
Landon,
lui quand il a décidé moi je serais eux, je lance l'offensive au pied du Tourmalet.
Oui, mais pour lancer l'offensive, faut-il encore avoir des jambes, Lucho? Ah,
écoute, regarde, Quintana, il a eu les jambes dans le col de portée. Valverde, il n'était pas si mal que ça.
Demain, juste pour info, hein, sur les 200 km, il y aura 67 km d'ascension. C'est quand même énorme.
Oui.
On n'en parle pas beaucoup de cette étape lourde de la Reims, mais c'est juste quand même, globalement, l'étape, l'une des étapes reines de ce Tour de France. Hein.
Oui, mais le problème, c'est que ça arrive en dernière semaine, et que le classement général est un peu figé. Et je pense que ça va être vraiment
dur, entre la troisième et quatrième place, Thierry, c'est pas figé.
Eh ben oui, mais tu sais bien comment ça se passe. Les mecs qui vont attaquer, tout le monde va se courir après. Tout le monde va bouger au lieu de laisser à la Sky le boulot. C'est vrai que ça, avec toute l'adversité qu'ils ont juste derrière. Bon, à part si la Sky met le train blanc en marche comme ils font d'habitude.
Ouais, tu sais,
là,
c'est
compliqué de sortir.
Si Roglic attaque, c'est pas Quintana qui va aller le chercher. C'est plus Froome qui va aller chercher Roglic.
Ensemble.
Mais attends, non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que si Froome se retrouve dans la même situation que dans le col de portée, Roglic, il peut avoir des chances, mais à la seule condition qu'il y voit un peu plus clair. Mais quoique, il avait attaqué à 7-8 km du sommet, au col de portée. Il avait attaqué de bonne heure. Mais s'il s'aperçoit à un moment donné que Froome est plus un petit peu mal, tu sais, 17 secondes, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose.
Mais il attendra le dernier, alors, Lucho.
Mais oui, non, bien sûr. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Pour récupérer le podium.
Tu l'as dit toi-même, du sommet du Tourmalet à l'arrivée, il y a quand même beaucoup de descente et la vallée pour aller chercher.
Mais donc, c'est pas la même stratégie entre Roglic et, si tu veux, les Movistar. C'est pas la même. Roglic, lui, il a 17 secondes de retard. C'est pas d'attaquer dans le Tourmalet qui va, C'est plutôt dans le col de Lobis. Parce que, attention, Roglic, il est bon au chrono aussi, hein. Il est très bon au chrono, Roglic.
Effectivement. Messieurs, on va se concentrer plus en détail encore sur la stratégie adoptée pour toutes les équipes demain. Donc, dans cette étape pyrénéenne, ultime étape de montagne entre Lourdes et la Reims. On remercie Nicolas d'avoir fait le 32-16 et l'intégral tour revient dans un instant sur RMC 20h15. 32-16 direct studio et hashtag RMC live.
RMC intégral tour. Arnaud Souk.
20h16, bienvenue si vous le rejoignez dans l'intégral tour. Je vous rappelle aujourd'hui le résultat de la 18e étape du Tour de France. C'était une bataille attendue de sprinteurs et ça n'a pas loupé. À Pau, c'est Arnaud Démare, le sprinteur de la Groupama FDJ, qui s'est imposé devant son compatriote, le sprinteur de la Cofidis, Christophe Laporte. Et puis c'est Alexander Kristoff, le Norvégien, le champion d'Europe du team Emirates, qui complète le podium de l'étape du jour. Pas de changement évidemment au classement général. C'est demain qu'il faut éventuellement en attendre des changements pour une grande étape de montagne, une grande explication entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et la Reims dans les Pyrénées-Atlantiques. Le leader du classement général s'appelle toujours Geraint Thomas. Geraint Thomas qui attend avec impatience justement d'en découdre. Demain, on l'écoute.
Je suis vraiment focalisé sur l'étape de demain. Ça va être une très grosse journée. On s'attend à beaucoup d'attaques dans les ascensions, donc on va rester vigilant. Je n'ai pas peur de ça car je me sens prêt, mais nous devons rester forts avec toute l'équipe comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous devons nous soutenir les uns les autres et tout ira bien.
Lucho Borghi, est-ce qu'il a les épaules, Geraint Thomas, pour aller remporter son premier Tour de France?
Là, il l'a montré, hein. Il a montré, parce que depuis le début, depuis la Rosière, il a ce maillot sur les épaules et je pense que ça va être difficile d'aller le mettre en difficulté. Ou alors tout le monde se lie contre eux, parce que en plus il a la meilleure équipe du Tour de France. Donc franchement, oui, il a les épaules, il a montré qu'il était il courait extrêmement bien. Et il a profité aussi de Froome, parce que quand Froome a attaqué, c'est les adversaires qui allaient le chercher, tout en croyant que il pouvait, et puis en plus il pouvait prendre du temps et se replacer, donc tout était bien pour lui.
Oui,
tout se passe très très bien.
En revanche, on passe notre temps à dire que la grande inconnue pour Geraint Thomas, c'est quand même cette troisième semaine de Grand Tour. Lui-même le répétait il y a encore quelques jours. Lucho, qu'est-ce qu'elle représente cette troisième semaine et pourquoi on pourrait expliquer que éventuellement Geraint Thomas pourrait avoir une défaillance en troisième semaine?
Bon, on l'a pas
même
vu
si c'est pas ce qu'on est en train de dire.
On l'a pas vu dans le col. Ouais, on l'a pas vu dans le col de portée. Mais c'est vrai que la différence de la troisième semaine, c'est l'état de la, c'est l'état de fatigue, quoi. Hein, c'est la récupération. Les coureurs récupèrent de moins en moins. Ils montent en altitude. Bon, après il y a les changements de braquet. Tu passes du plat dans la haute montagne. T'as tout un. Et puis c'est vrai que Geraint Thomas, pour l'instant, par rapport à ce que l'on peut voir, il tient le coup. Hein. Mais c'est vrai que le leader n'est jamais à l'abri. D'un jour parce qu'on on l'a vu pour l'instant depuis le départ du tour, il tient le coup, il a jamais eu un jour sans, hein,
non, il s'est jamais trouvé mal, il s'est jamais en difficulté, et il est pas de panique, il a absolument pas paniqué, au contraire, c'est lui qui a à chaque fois planté la dernière banderille pour aller prendre du temps à tout le monde.
Quand je me permettais tout à l'heure de qualifier cette étape d'une des étapes reines, si ce n'est étape reine de ce Tour de France, c'est aussi parce que il pourrait pas y avoir des banderilles dans tous les sens, justement. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer Christopher Froome se lancer dans une grande échappée comme il l'a fait il y a deux mois sur le Tour d'Italie?
Non,
personne ne voyait venir sur le Tour d'Italie il y a deux mois.
Oui, d'accord.
Oui, mais là, il
remporte les chocolats de la veille, Simon Yates. Il n'avait pas le maillot, mais enfin bon, la veille quand même, il montre à Simon Yates qu'il va falloir compter sur lui, quoi.
Oui, mais c'est Thomas, son équipier, qui a le maillot. Il va pas quand même passer à l'attaque.
Qui
profite des autres pour les accompagner, peut-être, et encore. Parce que je pense qu'il y aurait une grosse, grosse polémique et il n'en a pas besoin, Froome.
C'est un fantasme, quoi, de spectateur ou de téléspectateur, d'imaginer.
Il va passer à l'offensive, mais je pense pas. Il est là aussi pour accompagner Thomas et éviter de reculer encore au général. Oui, c'est sûr.
On va
peut-être essayer de mettre Dumoulin en difficulté s'il est mieux que lui.
Alors, on en parlera de Dumoulin dans un instant. On va accueillir d'abord Adrien au 32-16. Salut Adrien.
Ouais, bonsoir à toute l'équipe. C'est un honneur de vous avoir au téléphone.
Bah écoute, on est ravis de t'accueillir.
Vraiment, si je peux juste te dire, j'ai commencé à regarder le cyclisme à l'époque de Luc Leblanc. C'est vraiment...
C'est gentil.
J'ai malheureusement pas
tu
eu
l'as vu gagner en 96 alors.
Plutôt 96-97. Moi, je suis de 91. J'ai commencé tout petit, mais j'aurais voulu vraiment voir à Agrigente aussi parce que je suis d'origine. Je viens du sud de l'Italie. Donc, ça aurait été un bonheur.
On parle du championnat du monde 1994 remporté par Luc.
Non, j'ai pas pu le voir. Enfin, je l'ai vu sur YouTube.
Là, c'est bien, voilà. Plus que le sud de l'Italie.
Ah bah là, c'est carrément le sud de la Sicile, effectivement.
D'ailleurs, Agrigente avait organisé les 20 ans de mon titre et il m'avait invité avec Claudio. On avait passé trois jours magnifiques
avec Claudio Capucci qui avait terminé cette année-là deuxième de championnat du monde.
T'as visité les temples et tout ça. oui. Et puis il y a une grande réception au grand théâtre de Agrigente. C'était magnifique.
On vous le conseille, hein, d'ailleurs, si vous avez des vacances à prendre, n'hésitez pas à aller à Agrigente, c'est magnifique. Adrien, on t'a pas fait venir ici pour faire le tour opérateur. Parle-nous des Sky. Je crois que c'était le sujet que tu voulais évoquer.
Oui, voilà. Enfin, moi, c'était pour revenir un petit peu. Alors, désolé, bon, même si j'adorais Luc Leblanc, je l'ai vu hier pas trop convaincu par la prestation de Christopher Froome en admettant qu'il puisse y avoir une petite théorie du complot qui serait laissé un peu aller. Moi, je voulais juste revenir un petit peu historiquement sur Christopher Froome parce qu'on a un peu tendance à l'assimiler totalement, à faire un modèle avec Armstrong. C'est que Froome, il s'est raté quand même sur pas mal de courses. Moi, j'ai surtout en tête la Vuelta 2014. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il n'est pas ridicule, mais il venait de se blesser. Enfin, il est tombé pendant l'étape des pavés. Contador, lui, s'est blessé juste après dans une descente, et ils reviennent tous les deux sur la Vuelta. Et Contador, il met la misère à Froome. Il n'était absolument pas invincible. Il a toujours eu des moments de faiblesse. Il y a souvent eu des
au classement général, il y avait 1:10 d'écart, hein, sur ce Tour d'Espagne.
Oui, enfin, je veux dire, enfin.
Non, mais après, sûr que Contador,
c'est que je trouve que Froome a jamais de vraie défaillance, mais qu'il a quand même toujours eu des petits coups de moins bien. On l'a souvent vu en troisième semaine, où Quintana aussi, il avait attaqué, où il avait.
L'année dernière, rappelle-toi, je sais plus quelle étape, s'ils avaient vu un petit peu plus clair ses adversaires, il aurait pris 2-3 minutes.
Ça,
hein.
Exactement, ouais. Oui, c'est ça, où on voit, s'il n'avait pas eu une fringale. Et donc c'est pour ça, enfin, honnêtement, moi, j'y crois absolument pas. Ça, c'est la... Donc, moi, je suis absolument pas un fan de la Sky, hein, très honnêtement, même si j'apprécie assez bien Thomas. Et c'est pareil, le fait de mettre en doute le fait, Thomas, c'est un rouleur sur piste et c'est devenu un grimpeur. Mais, il est balèze en chrono et la plupart des, il y a énormément de grands coureurs qui sont devenus fort en montagne. Ça, on le voit, Thomas, il y a 10 ans, il était assez, il était même un petit peu gros. Enfin, il avait un peu de graisse et tout. Aujourd'hui, il s'est affiné, il a travaillé. Et puis, enfin, c'est quand même des reproches parce que je suis souvent entre la France et l'Italie. Et je trouve que les Italiens sont moins chauds, peut-être moins chauvins et moins, ils ont un peu plus d'œil. Ils savent qu'en Italie, il y a eu aussi des problèmes de dopage, etc. Mmh. En France, bon, voilà, moi, j'aime beaucoup Alaphilippe. Mais le fait qu'Alaphilippe, il rame comme ça, aucun Français va se poser aucune interrogation. Il a des jambes de feu et j'ose espérer que tout est clair. Mais alors que Alaphilippe n'était pas réputé non plus à la base comme un grand grimpeur.
Il a plutôt le gabarit quand même d'un garçon qui sait grimper les côtes.
C'est un
puncheur. Oui, il l'a peut-être, mais il a moins travaillé là-dessus, etc. Je ne sais pas si la quick step fait partie du protocole pour un cyclisme propre, je ne sais pas.
Je vais vérifier ça tout de suite, je note avec l'information.
L'équipe d'Alaphilippe ?
Oui.
Oui.
Je regarde ça tout de suite. Peu importe.
De toute façon, ils sont contrôlés comme tout le monde par l'UCI aussi.
Mais
hein.
c'est souvent reproché à la Sky, c'est ça que
oui,
je veux
oui,
dire.
Oui, non, mais c'est, ouais. il faut pas, il faut
alors
pas.
Alors non, ils en font pas partie pour le coup.
Non, c'est ce que c'est
rajouter,
ce qui me semblait,
parce que je
partie,
pense
ouais.
que les coureurs ont d'énormes contraintes avec ces contrôles. Où il y a eu interrogation, c'est sur l'affaire qui a duré 9 mois du salbutamol. C'est tout.
Oui.
Et c'est ce qui est dommage, parce que si on avait tranché rapidement, si l'UCI l'avait tranché rapidement, eh ben, on en serait
mais
pas là.
Mais c'est pas le fait de l'UCI, hein, Thierry. C'est surtout l'Agence mondiale antidopage qui a traîné un petit peu les pieds,
C'est un problème juridique surtout, hein.
Ouais. Alors, attends, Adrien. Vas-y, Adrien, je t'en prie.
Oui, je veux dire, Froome, ça a pas commencé non plus cette année, on va pas se mentir. Il y a quand même eu pas mal de soupçons quand il sortait tout le temps sa vente. Enfin, je veux dire, le public français a toujours été très dur envers Froome.
Ce qu'il faut quand même rappeler avec Christopher Froome, c'est qu'il souffre de tout un tas de pathologies, effectivement, nécessitant des autorisations à l'usage thérapeutique de certains. Mais la UT, il l'a pas juste pour le salbutamol. Il l'a aussi pour des histoires de maladies de peau, pour des histoires de maladies de moustiques ou de je sais pas quoi. Donc il en a un paquet, effectivement.
Moi j'ai trouvé le public un peu dur hier, alors qu'il était dans un moment dur comme ça. Quand il gagne de manière
d'accord,
mais hier de le siffler alors qu'il est quand même en difficulté, j'ai trouvé ça un peu
mais
dur.
Mais est-ce qu'on siffle Christopher Froome ou est-ce qu'on siffle la Sky qui rend ce tour complètement ennuyeux? Moi c'est ça la question que je vais vous poser, Lucho et Bourghi.
Non mais je pense qu'on siffle aussi, on l'a vu. C'était pour Thomas. Thomas en a eu quelques-uns. Froome en a eu quelques-uns. C'est sur l'équipe, parce que en fait, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur l'équipe La Sky. Arrête de parler de ça parce que on va dire qu'on ne les aime pas. Mais
il faut dire qu'il
y a eu une affaire avec des colis suspects qui ont été envoyés où il y aurait eu des corticos. Il y a eu le salbutamol et après il y a eu un rapport de la cour de d'Angleterre où la Sky est citée, un rapport sur le dopage et où la Sky est citée. Donc ça vient pas exclusivement des Français non plus.
Oui, effectivement. Merci en tout cas Adrien d'avoir fait le 32-16. Belle soirée à toi du côté.
Merci à toi Adrien.
Bobigny en Seine-Saint-Denis. Je rappelle les équipes pour le Tour qui font partie du mouvement pour le cyclisme crédible. AG2R la mondiale, Borans Greu, l'équipe de Peter Sagan, Dimension Data, Education First Drapac, celle de Rigoberto Urán, Groupama FDJ, la Lotto Soudal d'André Greipel et la Sunweb de Tom Dumoulin, le néerlandais.
Beaucoup, hein.
Bah alors, il y en a pas beaucoup et il y en a. Il y a toutes les épreuves, il y a toutes les équipes Conti professionnelles et notamment les équipes françaises comme Vital Concept, comme Fortuneo Samsic, comme Direct Energy. Mais effectivement, il y en a pas énormément. Messieurs, je vous remercie d'avoir été jusque là, d'avoir été avec nous. On se prépare à une dernière journée de montagne.
On va voir du spectacle un petit peu.
Bah oui, Arnaud, tu aurais pu prendre un risque quand même un peu plus.
Moi j'ai pris un gros risque moi.
Sur les paris.
Tu sais ce que je voulais faire au départ
de Christophe.
Tu sais ce que je voulais faire au départ, moi c'était parier Christopher Froome. Mais je sais pas. Christopher Froome ou Tom Dumoulin demain. Mais bon, vous m'avez convaincu avec votre scénario d'échappée là.
Moi j'ai mis Gazing. Hein.
Ouais, bah, c'est un scénario d'échappée.
Ouais, mais ça, mais ça fait rien.
Tous les grimpeurs voilà. Surtout.
Messieurs, j'ai pas pris de risque, désolé, mais un premier maillot vert.
Moi j'y vais parce que j'ai ma côte de bœuf qui attend.
Ouais, moi aussi je vais y aller après. Allez, salut Lucio, salut Maurice.
Salut,
à 14h dans l'intégral tour sur RMC. Nous dans un instant, tiens, on va parler de rugby à 7. Vous savez que les filles justement de l'équipe de France de Seven sont tout juste auréolées d'une couronne, alors pas d'une couronne, d'une médaille en tout cas d'argent à la Coupe du Monde de rugby à 7. C'était à San Francisco, défaite face à la Nouvelle-Zélande en finale, c'était il y a quelques jours, mais elles sont de retour en France et on sera avec elles et avec leur sélectionneur dans un instant sur RMC. À tout de suite, 20h29.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Tour sur RMC dans un petit quart d'heure. Toutes vos infos mercato que vous retrouvez déjà sur notre site rmcsport.fr, mais qui vous seront encore plus détaillées. Vous faites le 32-16, le direct studio et le hashtag RMC Live évidemment pour voilà, pour commenter cette actu du marché des transferts avec nous à 20h31. Je vous rappelle la victoire d'Arnaud Démare aujourd'hui, le sprinter de la Groupama FDJ lors de la 18e étape du Tour de France. Il devance l'autre français Christophe Laporte et Alexander Kristoff, le Norvégien champion d'Europe du team Emirates. Bah tiens, je vous propose de l'écouter, Arnaud Démare, justement, forcément satisfait. Il a vécu tout un tas de galères, mais une victoire d'étape sur le Tour de France, c'est sa deuxième en 2 ans. Eh bien, ça lui fait forcément plaisir.
C'était un final très rapide, voilà, avec la descente à 10 km de l'arrivée. On s'est perdu un petit peu, je me suis jamais affolé. Je savais que physiquement, ça allait le faire. Et voilà, j'y ai cru fort. On était idéalement positionnés avec Jacopo Guarnieri. Toute l'équipe a fait un excellent travail en amont. Donc, c'était un sprint parfait. Mon Tour de France est réussi. Je venais pour ça, j'ai travaillé pour ça, pour une victoire d'étape. Tous ceux qui ont suivi ma préparation savent tout le mal qu'on se donne pour un moment comme ça, donc c'est super.
Voilà, Arnaud Démare, le sprinter de la Groupama FDJ. Sachez que le classement général reste inchangé. C'est toujours Guérin Thomas qui occupe la première position synonyme de maillot jaune au classement général. Il est son dauphin, pardon, c'est Tom Dumoulin, le néerlandais de l'équipe Sunweb. Et Christopher Froome est troisième, l'anglais et coéquipier de Guérin Thomas. À 20h32, on va parler... Tiens, c'est pas souvent, mais on est tellement ravis d'en parler ce soir de rugby à 7. Le retour en France des Bleus du rugby à 7 auréolé d'une médaille d'argent lors de la Coupe du Monde de Seven à San Francisco aux États-Unis. Quand je dis les Bleus, ce sont les Bleus, B-L-E-U-E-S. Défaite face à la Nouvelle-Zélande, c'était en finale. Défaite, mais performance d'ensemble historique. Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour.
Avec, en plus, une histoire tout à fait particulière.
Bien oui, c'est l'histoire de 13 filles enragées qui partent aux USA pour marquer l'histoire. Alors dit comme ça, on pourrait croire à un mauvais pitch pour un road trip à la sauce américaine, mais pas du tout. C'est simplement l'aboutissement de 12 mois de travail qui se conclut à San Francisco. Alors pour les plus courageux, ils ont pu le voir en direct il y a quelques nuits, c'était 4h45 du matin, quand les filles de l'équipe de France de rugby à 7 ont défié les Black Ferns en finale de la Coupe du Monde. Elles étaient déjà au cœur de l'histoire, c'est une performance qu'aucune équipe de Seven n'avait jamais réalisée, mais elles étaient en passe de marquer le rugby tricolore à tout jamais, car oui, à 14 minutes près, 14 petites minutes, ces filles auraient pu prétendre être la première équipe de France championne du monde senior. Imagine un peu Arnaud, c'est une équipe de France à 7, qui est un peu le parent pauvre du rugby hexagonal, une équipe féminine qui plus est, ça aurait été un magnifique symbole. Seulement, la belle histoire va rester une belle histoire et pas une grande histoire, parce que face à elle se dessine une montagne, les Black Ferns, je l'ai dit, l'équipe de Nouvelle-Zélande, une véritable dream team à la sauce rugby. Et la défaite, elle est cruelle, 29-0. Elle ne reflète pas l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Mais cette défaite, eh bien, tout simplement, prive l'équipe de France d'un titre mondial qui lui tendait un petit peu les bras.
Alors pourquoi, Pierre, cette équipe de France n'est pas comme les autres?
Eh bien, parce que les observateurs du monde entier vont retenir trois choses grâce à ces filles. La première, c'est que le Seven tricolore et surtout celui de l'équipe de France des filles est à leur place en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. C'est un statut auquel ne peut prétendre aucune autre équipe de France et sont l'une des nations majeures de la discipline. Elles sont capables de battre n'importe qui. Exemple avec l'Australie, menée 12-0 à la mi-temps. Fanny Horta, la capitaine, prend la parole. Derrière, c'est la remontée fantastique. Elle renverse l'équipe numéro 1 mondiale pour se tailler une place en finale. C'est une petite vengeance quand même, parce qu'après Langford et Paris, où elles avaient été battues à la dernière seconde par cette équipe australienne, eh bien cette vengeance a un goût particulier, forcément. La deuxième chose, c'est que le surnom dont elles ont hérité, les enragées, n'est absolument pas usurpé. Quand des filles comme Camille Gracino, Marjorie Mayence, Chloé Pell, Fanny Horta, Shannon Izar se présentent sur le terrain, elles le font avec une étiquette, celle des meilleures du monde en défense et peut-être dans la tête, parce que mentalement, cette équipe semble insubmersible. C'est l'impression qui se dégage. Et puis enfin, grâce à ces filles, le rugby se conjugue au féminin et au presque parfait. Et grâce à cette génération, celle qui a fait un grand chelem il y a quelques mois avec l'équipe à 15, celle qui a fait une finale de Coupe du Monde il y a quelques jours, eh bien personnellement j'ai envie de croire que des petites filles, des petits garçons chez eux devant la télé ou dans les stades vont se dire eh ben le rugby c'est formidable. Et grâce à ces filles, on renouera avec une notion cardinale, Arnaud, celle du plaisir. Et mesdames, ben merci déjà, et puis j'espère que la génération qui va vous suivre aura l'envie de suivre surtout le chemin que vous êtes en train de tracer, le sillon que vous êtes en train de dessiner dans le rugby français, et qu'ils auront pour ambition de marcher peut-être dans vos traces.
Et pour en parler sur RMC avec nous, elles sont là, enfin ils sont là, puisque le coach, d'abord on l'accueille, David Courtex, le coach, le sélectionneur de cette équipe de France. Bonjour.
Bonjour.
Chloé Pelle et Shannon Izard également sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et félicitations. J'ai envie d'abord de vous demander, cette deuxième place, elle valide forcément pour vous une progression, enfin forcément quand on s'intéresse à votre parcours depuis quelques années. On a beaucoup dit, c'est l'histoire d'un groupe. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi c'est véritablement l'histoire d'un groupe? Est-ce que c'est en fait une histoire de groupe?
Une histoire de groupe, ça commence depuis une belle lurette. Ça fait depuis 2010 qu'un groupe s'est formé. Les gens sont venus, sont repartis, mais l'esprit est resté. Il y a un réel héritage et on essaye de le garder et de le transmettre.
C'est quoi? C'est de la complicité, c'est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de rigolade à côté. Tout ça, c'est ça le groupe?
Oui, forcément. On a la chance d'avoir un groupe dans lequel on s'entend vraiment très bien. Ça fait depuis 4 ans qu'on s'entraîne quasiment tous les jours ensemble. Donc forcément, il y a des moments où on a besoin de se détendre, et on a des filles dans l'équipe qui savent très bien faire ça, qui savent très bien nous faire rire au bon moment. Et oui, c'est formidable d'avoir un groupe et puis un projet qu'on a voulu construire ensemble autour de nos qualités valeurs. Propres et nos valeurs. Voilà, on n'a pas.
C'est quoi les qualités propres et les valeurs justement? Expliquez-nous.
La joie de pratiquer cette discipline, l'investissement qu'on y met,
la folie,
oui, c'est tout ça. Et
ce qu'il faut comprendre, Arnaud, c'est que la plupart des filles qui sont dans ce groupe de Seven, elles sont aussi en club et en équipe de France à 15. Les saisons sont très très longues et ça demande un investissement total. David peut en témoigner. Les filles, quand elles arrivent à l'entraînement à Marcoussis, elles font pas les choses à moitié. Elles sont à bloc tout le temps et très longtemps dans la saison, parce que les saisons de Seven sont très exigeantes.
Mais racontez-nous justement, David Courtex, en quoi cette deuxième place, on dit qu'elle valide une progression, mais elle valide quelle progression, vous qui avez pu la voir, l'observer, la chapeauter, j'ai envie de dire?
D'abord, bon, comme le disaient les filles, c'est une histoire qui a commencé il y a pas mal de temps. Donc, ça a été une progression assez linéaire en termes de résultats et en termes de classement au niveau mondial. Donc, le résultat sec en lui-même valide tout ça. Après, je pense que c'est le contenu aussi qui montre des avancées assez importantes, la façon d'aborder les grandes compétitions, la maîtrise qui est affichée sur le terrain, qui est nouvelle. Hein. On était une équipe qui manquait de constance, qui était capable de faire de très grandes performances par moment, puis qui à des moments s'effondrait un petit peu. Là, aujourd'hui, il y a dans le contenu, dans la façon de se préparer, dans la façon de se comporter sur le terrain et en dehors, des avancées significatives. Je crois qu'au-delà du résultat, encore une fois, c'est ça qui marque une progression. Et je pense que c'est ce que les filles voulaient évoquer.
Des compétiteurs, des compétitrices, forcément, ça fait mal quand même d'être battu en finale, d'être battu devant l'ultime marche, j'ai envie de dire. Ou pas du tout?
Si, forcément, on est un petit peu déçus parce que forcément, c'est une finale de Coupe du Monde, et une finale, bah, ça se gagne. Voilà. Mais après, non. On n'est pas resté déçus très longtemps. On a quand même réussi à tirer le positif et à se dire qu'on est quand même vice-championne du monde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, après, on s'est dit qu'on allait se remettre au travail et que la prochaine fois, peut-être qu'on les battrait en finale et que ce serait quelque chose d'encore plus beau.
Il y a une chose qui marque cette équipe. Il y a une chose qui marque cette équipe de France, c'est l'investissement défensif. On a l'impression que c'est un peu le lien qui existe entre vous. En demi-finale ou en finale, vous étiez complètement déchaîné. Je pense que toutes, vous avez dû mettre 10 plaquages chacune. Est-ce que c'est ça aussi la spécificité de ces enragés de cette équipe de France à 7?
Oui, clairement, c'est ce qui nous définit. C'est notre grosse défense avant tout. Et c'est ce qui montre aussi notre engagement et notre faculté de s'entraider. C'est de bah, c'est pas grave, il y en a une qui rate, il y en a toujours une autre qui sera là pour plaquer. Et ouais, après on aime ça aussi.
Les filles du Seven, vice-championne du monde hein, de rugby à 7, battue par la Nouvelle-Zélande justement en finale de la Coupe du Monde à San Francisco aux États-Unis. C'était la semaine dernière. Elles sont de retour en France et elles sont avec nous sur RMC. Moi j'ai envie de vous demander également quelles retombées vous espérez. Est-ce que vous espérez vous des retombées à titre personnel ou est-ce que c'est quelque chose qui, vous le savez, restera confidentiel? On en parle aujourd'hui sur RMC, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on en parle aussi dans le milieu olympique, mais ça reste de la presse spécialisée. Finalement, c'est quand même assez peu accessible, on va dire. Ou en tout cas, les gens ne cherchent pas forcément à aller le chercher.
Il y a déjà des retombées, la preuve, on est ici chez vous. Mais nous, après, on fait du sport parce qu'on aime ça, pas forcément pour ce qu'il y a autour. Donc, pour nous, c'est... Le but, c'est de ramener des médailles après le reste.
C'est je sais pas si c'est vraiment entendable de la part du grand public de se dire on fait du sport, mais on le fait pas véritablement pour la gloire, quoi. On le fait juste comme ça, voilà. Enfin, c'est notre sport. Tant pis si ça reste confidentiel. Mmh. En tout cas, dans notre pays, c'est tout à votre honneur, mais c'est quand même quelque chose de se dire ça, quoi. Finalement.
Après, c'est peut-être parce que on a grandi dans un milieu où le rugby féminin de base, il est pas extrêmement médiatisé, donc en fait, on a l'habitude de ça. Après, oui, si on est médiatisé, bah ça peut rapporter des nouvelles joueuses, des nouveaux joueurs qui vont se dire bah en fait, je peux en faire, surtout en regardant le rugby à 7, peu importe mon gabarit. Le rugby accepte tout le monde et voilà. Peut-être que y a des futures championnes du monde qui là en nous regardant se sont dit bah tiens je vais me mettre au rugby parce que j'en ai envie et que voilà c'est joli à voir, ça a l'air sympa.
Mmh. Il y a un joli signe qui a été envoyé aussi par la fédération, c'est Bernard Laporte et Monsieur Simon qui ont tweeté tous les deux en pleine nuit pour féliciter l'équipe de France, pour les soutenir. Ça prouve aussi peut-être qu'à l'échelle fédérale il y a une prise de conscience ou du moins on a envie d'accompagner les filles à 15 ou à 7. Est-ce que vous avez conscience quand même que aujourd'hui vous êtes l'équipe de France la plus performante de toutes les catégories? En tout cas chez les seniors.
Surtout on nous le dit après. Oui, on en prend un peu conscience après.
Parce que numéro 3 mondial avant ce tournoi, vice-championne du monde, enfin aucune autre équipe de France à l'heure actuelle ne peut prétendre à faire partie des 3 meilleures équipes du monde.
Il y a les moins de 20 garçons qui sont
quand même champion du monde, mais champion chez les seniors,
chez
y en
les
a
seniors,
pas.
Oui, non, il y a que tout.
Vous avez conscience justement, David Courtex, que le rugby féminin, à travers la performance de vos filles là en Seven, peut aussi gagner en notoriété. Enfin, je dis vous avez conscience. Est-ce que c'est vraiment le souhait que vous avez? Est-ce que vous espérez justement que la retombée principale ce sera ça, de se dire c'est pas parce que c'est du rugby féminin que ça doit être mis au second plan par rapport au rugby masculin?
Oui, bien, enfin, d'abord, moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fait d'être entraîneur, je suis cadre technique de la fédération. Donc, bien sûr que, au-delà du plaisir que j'ai à entraîner cette équipe et du fait que j'ai envie de témoigner de l'authenticité de ce qu'elles vous disent, je crois qu'effectivement, elles courent plus après l'or qu'après la gloire. Et ça fait aussi partie de leur qualité, parce que vous évoquiez leur rage défensive, hein, c'est de ce surnom qui leur a été donné par des entraîneurs étrangers. Faut quand même le savoir. Je crois qu'il provient beaucoup de cet enthousiasme, de cette fraîcheur qu'elles ont véritablement en elles. Après, pour revenir sur le rugby féminin, bien sûr qu'on espère tous que ça donnera envie à des filles de venir jouer au rugby, à des garçons aussi, bien sûr quand même, parce qu'on n'est pas genré à ce point-là. Et puis qu'on espère aussi que ça convaincra des parents de laisser leurs filles aller jouer au rugby, parce que je crois qu'il faut pas se cacher qu'on a encore quelques freins à ce niveau-là, même s'ils sont peu à peu en train d'être levés. Après, dans l'ensemble, le rugby féminin va bien.
Hein. On était à 12... Non mais il va bien, c'est indéniable.
Ouais. Il va bien au niveau international. Les filles du 15 ont gagné le tournoi des Six Nations, font le grand chelem, terminent 3e de la Coupe du Monde l'été dernier. Les filles du 7 donc, viennent de faire quelques résultats, mais il va bien aussi au plan national, sur le plan du développement. C'est une discipline qui prend énormément d'ampleur. On est passé de 12 à 20 000 licenciés en 4 ans, hein, à peine. Donc voilà,
ce qui reste quand même, faut le dire, largement inférieur, même si le nombre de licenciés chez les garçons est aussi en baisse, ça reste quand même... plusieurs fois inférieur justement au nombre de licenciés chez les garçons.
C'est pour l'instant une discipline confidentielle, mais je pense que la fédération est consciente. Vous évoquiez ses dirigeants principaux tout à l'heure, mais la fédération est consciente du fait qu'il y a une réserve de licenciés chez les filles qui est très importante, que c'est une discipline aujourd'hui qui jouit d'une image qui est de meilleure en meilleure et puis qu'elle séduit, quoi, qu'elle donne envie.
Ça va être un travail pour vous, Chloé, de Shannon, de justement de faire ça, d'essayer d'aller convaincre des filles, bah, de s'inscrire, de se dire oui, on peut le faire, on peut jouer. C'est pas parce que c'est du rugby que c'est forcément pour les gars.
Oui, après ça, on essaie de le faire passer.
Mais est-ce que là, vous avez encore plus de légitimité justement à le faire? Est-ce que vous sentez encore plus de légitimité?
Pour moi, la légitimité, c'est juste de se faire plaisir en jouant, pas forcément parce qu'on gagne ou qu'on a des bons résultats, mais c'est vrai que ça va aider c'est plus visible quand les filles se disent ouais ça gagne, peut-être que j'ai plus envie d'y aller que quand ça gagne pas. Mais après on essaie de faire ça de toute façon dans notre vie de tous les jours, d'en parler quand on vient nous solliciter, on essaie de rester le plus naturel possible et voilà, de faire profiter de notre expérience les petits jeunes.
Notre joie de jouer, voilà, c'est tout.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci David Cortex, merci Chloé Pell et Shannon Izard d'avoir été avec nous sur RMC.
Merci.
Allez, je vous rappelle en vélo le résultat de l'étape du jour aujourd'hui entre Trie-sur-Baïse et Pau. C'était réservé aux sprinteurs et ça n'a pas loupé. Bagarre de gros bras du sprint à la fin. C'est Arnaud Démare, le leader de la groupe AMA FDJ, qui s'est imposé devant un autre Français, Christophe Laporte du team Cofidis. Alexander Christophe, le champion d'Europe du team Emirates, a lui terminé troisième. Et puis Peter Sagan, le maillot vert, conserve sa tunique de meilleur de leader du classement par points. Mais il est arrivé seulement huitième aujourd'hui de ce sprint. Demain, lourde la Reims, 200 km 500 ponctués par 6 difficultés, dont 2 cols hors catégorie, le col du Tourmalet et le col de Bisque. Tout ça, ça sera dès 14h dans l'intégral tour sur RMC. Nous, on va se quitter une petite seconde et puis on revient dans un instant avec toutes les infos du jour, tout ce qu'il y a à retenir sur la planète Mercato. A tout de suite sur RMC, 20h46.
RMC, intégral tour.
La dernière ligne droite de l'intégral tour sur RMC qui vous rappelle évidemment qu'Arnaud Démare s'est imposé aujourd'hui au sprint à Pau. Demain, étape de montagne, ce sera entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et La Reims dans les Pyrénées-Atlantiques. L'intégral tour qui commencera bien évidemment comme tous les jours à 14h. Avant ça, toutes les infos football de la planète Mercato notamment.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
On retrouve Mathieu Charré. Rebonsoir Mathieu.
Rebonsoir Arnaud.
Tiens, on va, avant d'évoquer les infos Mercato, rappeler les résultats, les principaux résultats du soir et notamment cette victoire de Bordeaux pour son premier match officiel de la saison.
Oui, c'était loin de leur terrain en Lettonie sur le terrain du FK Ventspils. Bordeaux qui a affronté le club letton pour le match aller du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue Europa et les hommes de Gustavo Poyet ont pris une option puisqu'ils se sont imposés cet après-midi 1-0. Vous avez pu suivre ça sur RMC Sport 1 à la télé et RMC Sport évidemment à la radio. 1-0 grâce à un beau coup franc de Youssouf en début de match. Une victoire à confirmer dans une semaine, jeudi prochain, au Matmut Atlantique pour se qualifier donc pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa.
Un autre résultat plus précisément, un petit peu moins heureux, c'est celui de l'équipe de France U19 en demi-finale de l'Euro.
Ouais, vous l'avez suivi aussi sur RMC Sport, les Bleus ont été sortis de la compétition par l'Italie en s'inclinant 2-0. Les jeunes Français qui ont craqué en fait en 3 minutes en première mi-temps entre la 27e et la 30e, concédant 2 buts coup sur coup, des buts de Christian Capone et de Moïse Keane. Et ils n'ont ensuite jamais pu revenir, trop imprécis les Bleus qui ont touché 2 fois la barre d'Alessandro Plizzari, le portier italien, auteur d'un bon match. Par ailleurs, c'est donc l'Italie qui rejoint le Portugal en finale de l'Euro U19. On n'aura pas de revanche 2 ans après la tristement mémorable finale de l'Euro 2016.
Et ça, c'était chez les grands. Au Stade de France. Tiens, le Mercato avec la Ligue 1, puisqu'on parlait de Bordeaux, il pourrait bien perdre les Bordelais, Youssouf Sabali.
Oui, le défenseur sénégalais aurait été autorisé par le club de Bordeaux à se rendre en Italie pour discuter avec le Napoli, alors qu'on croyait les discussions rompues entre les deux clubs. Le mérite en reviendrait en fait à Carlo Ancelotti, qui a connu un Sabali au PSG, c'était en 2013, et il aimerait bien revoir le sénégalais dans son effectif.
Et alors qu'on pensait l'accord finalisé, Jimmy Briand, lui, ne rejoindra pas l'Impact de Montréal.
C'est le club canadien qui l'a annoncé par communiqué il y a quelques minutes. L'attaquant de Guingamp. Au moment de signer, en fait, il aurait eu de nouvelles exigences trop importantes qui ont donc fait capoter l'accord. Jimmy Briand est donc toujours, à l'heure où on parle, un joueur de l'Orne avant Guingamp.
À Montpellier, le latéral Jérôme Roussillon éveille, attise les convoitises.
Notamment en Allemagne, du côté de Wolfsburg, on a contacté les représentants du joueur qui parlent de discussions avec ce club, mais aussi avec Mayence et le Betis Séville. En Espagne, le joueur, lui, ne serait pas contre un départ dans l'idée de franchir un cap à 25 ans et sa situation devrait vite évoluer.
Pendant ce temps-là, le SCO Angers met la main sur Jeff Reine-Adélaïde.
Oui, le milieu de terrain qui avait été prêté par Arsenal à Angers en janvier dernier, eh bien il a signé pour les 4 prochaines saisons. Le Français âgé de 20 ans est formé au RC Lens, avait joué 10 matchs la saison dernière sous le maillot angevin.
On fait un petit tour en Ligue 2 où Lens voit arriver un joueur de Manchester City.
Son nom, Thierry Ambrose, 21 ans, prêté donc par City à Lens pour 1 an. C'est un espoir du foot français qui rejoint le club nordiste après avoir été prêté l'an passé à Breda aux Pays-Bas où il avait marqué 10 buts en 30 matchs.
Antonio est avec nous au 32-16, supporter des Girondins de Bordeaux. Salut Antonio.
Oui, bonsoir Arnaud.
Bon, d'abord je suis obligé de te faire réagir évidemment sur cette victoire, premier match officiel, première victoire, même si le contenu a pas toujours été hyper satisfaisant. Bon, cette victoire a fait quand même du bien et ça augure d'une bonne suite en tout cas pour les Bordelais.
Ouais, c'est sûr Arnaud, ce qu'on retient nous, c'est vu qu'on est en pleine préparation, surtout on a le traumatisme entre guillemets de Vidéoton l'année dernière. Voilà, le principal, on va retenir la victoire, même si techniquement ils ont fait beaucoup d'erreurs. Les Lettons ont été assez agressifs quand même. Bon, on a réussi à gagner 1-0. Maintenant, va falloir assurer au match retour dans une semaine au Matmut. Et pour revenir sur le mercato, je suis un peu déçu parce que ça balie ce que je disais à Jérôme au Standard. C'est que c'est un des seuls joueurs l'année dernière qui a fait une très bonne saison. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Carlo Ancelotti s'est pas trompé en venant le chercher en Bordeaux. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de vendre les bijoux de famille pour revendre la belle mariée aux Américains, quoi? Parce que le problème, c'est qu'on vend Malcolm. Bon, ça, c'était un départ programmé. On fait une bonne vente, je pense. Le problème, c'est que Pablo, il est sur le départ aussi à Krasnodar en Russie. Là, si tu vends Sabali, va falloir acheter et un attaquant, et un milieu, et un défenseur central, et un arrière-droit, quoi.
Ouais. Le problème, c'est que pour l'instant, le mercato, c'est vrai que c'est le point mort, hein. Il y a eu pas mal de départs, notamment à Malcolm.
C'est bien, on a pris 50 ou 60 millions d'euros, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, plus on attend, plus les...
Ah, est-ce qu'ils seront réinvestis? Ça, c'est loin d'être sûr, hein, pour l'instant.
Oui, c'est ça le problème, c'est que plus t'attends, tu sais très bien, hein, tous les équipes font leur marché, entre guillemets. Et le problème, c'est que si t'attends, bah, tu récupères ce que personne ne veut, quoi. Le problème, il est un peu là, quoi. Donc, si on a le bonheur et la chance de se qualifier pour les barrages, pour la phase finale de la Ligue Europa, en quantité et en qualité, ça va être compliqué de tenir la saison, quoi. Alors, si on est parti pour une saison où on va galérer et en championnat et en Ligue d'Europa, je sais pas, on garde au moins une bonne assise défensive qu'avait trouvé Poyet l'année dernière avec Pounjde, Pablo, Koundé et puis Sabali à droite. Le problème, c'est que si tu vends deux des quatre, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué dans les automatismes et puis dans la défense, quoi. Alors, je sais pas quel est le but des dirigeants aujourd'hui. J'aimerais les comprendre. Voilà. Est-ce que on est de plus en plus, je vous confirme qu'à Bordeaux, on parle de plus en plus de cette revente du club à des Américains. Mais voilà, le problème, c'est que si tu revends le club et puis derrière, les repreneurs ne mettent pas d'argent et ne mettent pas les moyens pour recruter des joueurs qui tiennent la route, on va vivre une saison galère. Bon, je suis supporter jusqu'au bout, quoi. À voir. Arnaud, complètement. Au revoir.
Merci Antonio, en tout cas, d'avoir fait le 32-16.
Merci Arnaud, bonne soirée.
Merci à toi, évidemment, à l'écoute d'RMC cette soirée. On part en Italie, on continue avec nos infos mercato, Mathieu. Leonardo Bonucci voudrait retourner à la Juve.
Oui, un an seulement après son départ pour le Milan AC, c'est Leonardo, l'ex-joueur et directeur sportif du PSG, qui occupe aujourd'hui ce poste à Milan, qui le dit aujourd'hui, à 31 ans, Bonucci pourrait donc retrouver le club qu'il a côtoyé entre 2010 et 2017 et qu'il avait quitté l'été dernier, on le rappelle, pour 40 millions d'euros.
Et pourquoi pas le voyage dans le sens inverse pour Gonzalo Higuain.
Oui, ça chauffe entre l'attaquant argentin et le Milan AC. En fait, la Juve et le Milan pourraient même faire un échange de bons procédés et de joueurs, hein, entre Bonucci et Higuain. Et puis en cas d'échec sur ce dossier offensif, le Milan AC aurait un œil sur Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de Chelsea, pour lequel les Blues demandent quand même 65 millions d'euros.
Toujours en Italie, un joueur français de l'AS Rome à la côte en première ligue.
C'est l'ex-lyonnais Maxime Gonalons qui a donc, tu viens de le dire, il y a la côte en Angleterre. On connaissait l'intérêt de Crystal Palace, hein, qui est prêt à mettre 10 millions sur la table pour engager Maxime Gonalons. Et bien, selon Calcio Mercato, Everton pourrait entrer dans la danse. Gonalons qui ne devrait donc a priori pas rester à la Roma pour une deuxième saison.
Everton s'intéresse à un autre Français évoluant en Espagne.
Lucas Digne, oui, l'arrière-gauche du FC Barcelone. On savait depuis quelques jours que les Toffees s'intéressaient aux Français. Eh bien, ils seraient prêts à payer les 25 millions demandés par Barcelone pour lâcher leur joueur. Bloqué par Jordi Alba à Barcelone, Lucas Digne aurait pour concurrent à Everton un des chouchous du public au poste de latéral gauche, l'anglais Leighton Baines.
Merci Mathieu pour toutes ces infos mercato que vous retrouvez évidemment sur rmcsport.fr. Je suis sûr que le mercato, il en sera question. Dans l'after, on retrouve Jean-Christophe Drouet et son orchestre. Et oui, ils sont là pour égayer votre soirée. Salut JC, ça va ?
Salut, oui, Arnaud, tout va bien. J'ai une contrebasse, j'ai une guitare, j'ai un piano, j'ai tout évidemment.
Ah oui, carrément, c'est des gros moyens, quoi.
Une très très belle
soirée.
J'avais
juste ma flûte et mon pipeau.
Oui, mais tu sais, l'after, c'est un énorme barnum. Et on arrive, merci beaucoup, passe une belle soirée.
Toi aussi, salut.
Arnaud, car on va passer une belle soirée de foot, évidemment. Il sera question du mercato, de la défense de l'Olympique de Marseille, de la arrivée de Leonardo à l'AC Milan, mais également de Marco Verratti. Voilà au moins trois belles raisons d'écouter ou de regarder l'after qui va débuter dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.